Radioscopie, Jacques Chancel.
Raymond Aron.
Raymond Aron, vous êtes philosophe, écrivain, professeur, penseur, historien, journaliste, mieux encore, libéral. Vous êtes passionné et vous vous plaisez à heurter et souvent à déconcerter. Vous avez disséqué l'histoire avec une turbulence impétueuse. Vous êtes à la fois de partout et de nulle part. Vous avez 64 ans et vous cherchez encore. Peut-être, dans le fond, allez-vous à la découverte de votre propre personnage.
Vous croyez... Je vais faire un aveu, je n'ai jamais entendu votre émission. Et la manière dont vous me posez cette question, c'est-à-dire suis-je à la recherche de mon personnage, je vous répondrai franchement non, je ne crois pas. J'ai le sentiment que mon existence a été faite dans une large mesure par des circonstances qui me sont extérieures. Car... mon ambition initiale, je ne crois pas l'avoir accomplie, elle était purement philosophique et purement scientifique. Et les différents personnages que vous avez énumérés, il y en a un que je ne suis pas, c'est-à-dire je ne suis pas historien, pas du tout. J'ai écrit sur la philosophie de l'histoire,
ça n'est pas
la même chose. Et le journalisme, eh bien vous le savez, c'est un accident. C'est Londres, c'est la France libre, où je suis devenu rédacteur en chef de la France libre dans des circonstances accidentelles. Puisque je m'étais engagé dans l'armée du général de Gaulle, je devais partir pour Dakar, et exactement 3 jours avant le départ, André Labarthe, qui était au quartier général, qui était dans le groupe gaulliste, a insisté auprès de moi passionnément pour que je vienne avec lui pour faire une revue, et j'ai hésité beaucoup, et c'est tout à fait par accident que je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Ensuite, le journalisme quotidien, vous savez comment il a commencé, un nouvel accident. Au retour en France, après la guerre, je ne souhaitais pas quitter Paris. La faculté de Bordeaux m'a offert, et je crois à l'unanimité, la chaire de sociologie de l'université de Bordeaux. Mais j'étais convaincu, à l'époque, déjà qu'il était mal d'habiter Paris et d'aller faire ses cours à Bordeaux. Alors je n'ai pas accepté ce poste, et par conséquent, je n'avais pas de situation. J'ai été pendant 2 mois le directeur de cabinet d'André Malraux. Et puis quand j'ai quitté le cabinet d'André Malraux, je ne savais pas quoi faire. Alors André Malraux m'a dit, allez donc voir Pia, Pascal Pia qui dirigeait Combat. Pascal Pia m'a dit, pourquoi n'écriez-vous pas des articles dans Combat? Je lui ai répondu, de ma vie, je n'ai écrit un article de journal quotidien. Je ne sais pas si je sais faire ça. Et puis j'ai commencé, accidentellement, ça a eu plutôt du succès. Et puis ça continue depuis 1946 et nous sommes en 1969.
Alors, vous étiez de la grande équipe de Camus.
La deuxième grande, si vous voulez. La première grande, peut-être la vraie grande, c'est celle de la clandestinité dont je n'étais pas. Et puis il y a eu celle de 44-45. C'est le journal éblouissant dont je disais tout le monde lit Combat. Malheureusement, tout le monde, ça ne fait que 40 000 lecteurs. Et c'est comme ça que le journal s'est ruiné. Alors moi je suis arrivé, disons, à l'époque où il y avait encore les fondateurs. Camus n'y était cependant plus, il y est revenu à la fin. Je suis venu au début de l'année 1946. Et puis un an après, l'équipe a changé.
Raymond Aron, vous vous considérez toujours comme un journaliste?
Non, pas du tout.
Et pourtant?
Pas du tout. Je me considère comme un professeur qui écrit dans les journaux. Alors peut-être cela pourra vous surprendre. Je dois dire qu'il y a eu un moment, comme j'ai beaucoup d'amour propre, où je voulais démontrer aux journalistes professionnels que je pouvais écrire des articles de journaux aussi vite qu'eux. Je ne dis pas aussi bien ni mieux, mais aussi vite qu'eux. Et à Combat, je les écrivais probablement plus vite que les professionnels. Mais une fois que j'ai satisfait ce désir un peu puéril, dans certaines circonstances, l'activité de journalistique m'intéresse, m'amuse. Il y a des moments où j'ai envie de dire des choses. Mais si je conserve encore des ambitions, je crois qu'elles sont beaucoup plus scientifiques ou philosophiques que journalistiques. Et c'est pas que le terme de journaliste me choque ou me froisse ou m'humilie.
Vous êtes mieux que ça.
Non, autre chose. Autre chose. Non, je ne porte pas de jugement de valeur. Vous savez, je vais vous citer un mot qui vous fera peut-être plaisir, ou tout au moins qui m'a fait plaisir à moi un jour. J'expliquais à un de mes amis allemands pourquoi j'avais des incertitudes, des troubles de conscience à écrire autant dans les journaux. Et il m'a répondu en me citant un mot d'un de mes maîtres, mot que j'avais oublié, un maître que je n'ai pas connu mais que j'ai beaucoup lu, Max Weber, le plus grand sociologue allemand, qui a écrit quelque part que la vanité était la maladie professionnelle des professeurs, disons des professeurs allemands pour ne pas choquer mes collègues français, c'était surtout vrai pour les professeurs allemands, et il ajoutait, les professeurs regardent de haut et avec mépris les journalistes, mais beaucoup des qualités nécessaires pour faire un bon journaliste, les professeurs ne les possèdent pas et ne les posséderaient pas. Et cela m'a réconforté de me dire qu'après tout, le métier de journaliste avait sa dignité et que les qualités intellectuelles nécessaires, qui ne sont pas les qualités supérieures, ne sont pas nécessairement méprisables.
Raymond Aron, on connaît votre œuvre, on connaît votre nom, mais cette émission vaut parce qu'elle veut expliquer les personnages. Alors maintenant, j'aimerais savoir d'où vous venez. Qui vous êtes véritablement?
Ça, je ne suis pas sûr que je donnerai satisfaction à votre curiosité, parce que j'ai écrit au moins une fois ou deux dans des préfaces que ma vie personnelle ne regarde que moi, et que je déteste le « je ». Je suis comptable de mes actes et de mes opinions, mais après tout, ceux qui ont écrit sur la politique, ou qui écrivent sur la politique, ils ont parfaitement le droit de réserver pour eux leur vie privée. Alors, avant que je réponde à votre question, vous seriez gentil de la préciser.
Je voudrais savoir simplement où vous êtes né et comment était votre jeunesse, car c'est une jeunesse qui explique souvent un âge mûr.
Bien, eh bien, je suis né à Paris. Mon père était professeur de droit. Mon grand-père, que j'ai à peine connu, vendait des textiles. C'est donc typique, je suis d'une famille juive de Lorraine, ce qui signifie une famille où le patriotisme français est enraciné à un degré extraordinaire. Les grands-pères avaient transformé une petite affaire en une grande affaire. Mon père était déjà un intellectuel et n'avait aucune envie de gagner de l'argent, alors il l'a complètement perdu. Moi, j'ai été un élève de lycée, appliqué, studieux, le type même du bon élève.
Rien à voir avec l'élève d'aujourd'hui.
Je ne sais pas. J'avais un extrême amour-propre et je tenais beaucoup à être le premier, ce qui est toujours un peu ridicule. Mais enfin, je dois le reconnaître, c'est vrai. Puis alors, il y a eu une autre passion dans ma jeunesse. C'est le tennis.
Classé ?
Deuxième série de France, 2e/6e.
Alors, je vous félicite.
Oui, quand j'étais à l'école normale, c'était... je ne dis pas que c'était ma particularité ou mon titre de gloire, mais enfin, c'est ce qu'il y avait de plus surprenant pour un normalien. Maintenant, cela va de soi. Mais enfin, quand j'avais 15, 16 ans, avant que je découvre la philosophie, mon désir passionné, c'était d'être un champion de tennis.
Raymond Aron, nous allons parler de beaucoup de choses, de sociologie, de philosophie, de la France, de l'université. Je vois que vous avez planté le décor tout en étant très discret. Je voudrais simplement savoir, vous êtes marié, vous avez des enfants.
Oui.
C'est pour mieux vous connaître. Combien d'enfants ?
J'ai des petits-enfants. J'ai 3 petits-enfants.
Vous avez dit à l'instant, Raymond Aron, vous étiez juif. Et j'ai retrouvé une phrase de vous où vous disiez « Je cesserai de me soucier de mes origines juives le jour où disparaîtra le dernier antisémite. »
Oui, je pense, en effet. J'étais parfaitement indifférent à mes origines juives parce que mes parents déjà n'étaient plus pratiquants ni religieux. Je crois n'être jamais allé au temple, peut-être une fois ou deux pendant toute ma jeunesse. Et sauf quelques cris de camarades, sales juifs, etc., qui ne me touchaient pas, je n'avais pas réellement pris conscience de ma judéité, comme on dit aujourd'hui. Et le choc pour moi, l'expérience profonde, ça a été l'Allemagne et l'Allemagne hitlérienne. Et depuis que j'ai été en Allemagne pour la première fois en 1930...
À Cologne,
comme lecteur à l'université de Cologne. Et le mouvement hitlérien, en septembre 1930, a eu son premier grand succès. 107 députés élus au Reichstag. Et alors l'antisémitisme hitlérien m'a fait prendre conscience de mon judaïsme ou de ma judéité, en ce sens qu'à partir de ce moment-là, j'ai tenu à l'affirmer avec, non pas de manière agressive, mais... J'ai eu peur de donner aux autres le sentiment que je dissimulais ma judéité.
Est-ce qu'on pouvait dire que c'était un autre aspect du racisme ?
Chez moi?
Oui.
Non. Non, parce que j'ai horreur de fuir mon destin. J'ai horreur de fuir les charges que la vie telle qu'elle est peut m'imposer. J'ai connu un certain nombre de malheurs privés dont je ne veux pas parler, mais qui m'ont marqué profondément. Et le fait que je sois juif n'est pour moi, je l'ai écrit, ni une raison de fierté, ni un motif d'humiliation. Être juif, bon, c'est être ceci comme on peut être autre chose, mais à partir du moment où il y a eu des millions d'êtres qui ont péri parce qu'ils étaient juifs, à partir du moment où le terme est considéré comme infamant par une partie de la population, je ne veux pas fuir ceux qui sont mes coreligionnaires, que je le veuille ou non. Je dis toujours coreligionnaires entre guillemets, parce que je ne suis pas croyant, que je ne suis pas religieux, et qu'il y a quelque chose d'artificiel à dire que je suis co-religionnaire alors que je n'appartiens pas à cette religion. Mais peu importe, je ne sais pas comment dire. D'une certaine manière, je ne voudrais pas rougir si je me retrouvais devant mon grand-père qui était la première génération sortie du ghetto. Mais je ne veux pas fuir cela, je ne veux pas fuir mes ancêtres, c'est tout.
Raymond Aron, il y avait déjà une très grande force chez vous, car lorsque vous dites, lorsqu'on me disait « sale juif », je ne bronchais pas. Par exemple, j'ai reçu à ce micro Lanzmann, Jacques Lanzmann, qui me dit avoir été marqué justement par ce mot insensé.
Non, ça c'est arrivé un petit nombre de fois, mais dans l'ensemble, ma vie comme élève au lycée de Versailles, puisque mes parents s'étaient établis à Versailles en 1913, j'ai fait toutes mes études au lycée de Versailles jusqu'à la classe de philosophie, puis j'ai fait 2 années Hippocagne et Cagne, et je suis entré à l'école normale. Et à l'école normale, la question juive, en gros, n'existait pas. Pour ceux qui étaient à l'époque mes amis les plus intimes à l'école normale et qui sont devenus célèbres, Paul Yves Nizan ou Jean-Paul Sartre, le fait que j'étais juif était sans signification. Et je dois dire que Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, a eu à mon sens le tort de prendre pour modèle du juif le juif déjudaïsé dont je suis un exemple. Il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas déjudaïsés, et il y a beaucoup de juifs qui ont conscience de leur judéité comme de leur être essentiel, tandis que moi j'en ai conscience comme de quelque chose qui me vient de l'extérieur. C'est en ce sens, et pour un juif tel que moi, que la formule de Sartre, c'est le regard de l'autre qui fait le juif, est relativement vraie. Même pour moi, probablement, elle n'est pas tout à fait vraie.
Raymond Aron, comment vous situez-vous en ce moment par rapport, par exemple, au conflit arabe-israélien?
Je me suis exprimé assez longuement sur ce sujet. J'ai écrit un petit livre. Comment dire? Je ne me sens incapable de donner tort ou raison à un des deux camps. Quand je me mets à la place des Palestiniens, peut-être même des Arabes, c'est déjà un peu plus douteux pour l'ensemble des Arabes, mais quand je me mets à la place des Palestiniens, je comprends la haine qu'ils éprouvent. Ils ont perdu, sinon leur patrie au sens ordinaire du terme, du moins le sol sur lequel ils habitaient. D'un autre côté, les Israéliens venus de tous les pays, et souvent de pays où ils étaient persécutés, ont créé en une vingtaine d'années un État. La destruction de cet État me paraîtrait aujourd'hui un épisode monstrueux. C'est-à-dire que je me suis efforcé toujours d'écrire qu'il s'agissait d'une tragédie, et d'une tragédie historique, dans laquelle il est impossible de prendre position uniquement à partir d'arguments rationnels. C'est un de ces conflits où, inévitablement, la prise de position est affective. Et je ne le dissimule pas. Ce qui signifie que, au moment de l'expédition de Suez en 56, j'étais violemment hostile à la politique française, que je croyais mauvaise pour la France, et mauvaise aussi, dans une large mesure, pour Israël. Au moment de la guerre de 6 jours, j'ai pensé, à tort ou à raison, mais je continue à penser, que la responsabilité majeure incombait à Nasser. Et que dans la situation où se trouvait Israël, les dirigeants de l'État ne pouvaient pas faire autrement. Et vous savez que c'est une des rares circonstances où, environ 6 jours à l'avance, j'ai explicitement annoncé la guerre à une époque où personne n'y croyait à Paris. Et j'étais convaincu, connaissant Les Israéliens, connaissant la conception stratégique des dirigeants de l'État d'Israël, qu'à partir du moment où le Sinaï était rempli de troupes égyptiennes, où les divisions irakiennes étaient entrées en Jordanie, ils ne pouvaient pas faire autrement que de desserrer l'étau.
Raymond Aron, nous sommes convenus de croire que l'État d'Israël, avec 1 million de juifs en plus, vivrait mieux ou du moins se défendrait mieux. Ce million de juifs, doit-il venir d'ailleurs ?
Doit-il signifie, selon vous, la nécessité ou bien quelque chose de souhaitable ?
Les deux.
En l'état actuel du monde juif à travers les continents, probablement la seule source importante de juifs désireux de devenir israéliens se trouve en Union soviétique. Et, comme vous le savez, l'Union soviétique n'autorise pas le départ des juifs, sauf dans quelques rares circonstances des membres de la famille qui vont retrouver le reste de la famille en Israël. Il y a probablement 3 millions à 3 millions et demi de juifs dans l'Union soviétique. Parmi eux, d'après des témoignages valables, une certaine fraction envisagerait d'émigrer. Combien, personne ne peut le dire. Si vous laissez de côté cette population d'Union soviétique, la communauté juive des États-Unis est en très grande majorité sympathisante d'Israël. Mais le nombre des juifs américains qui souhaitent devenir israéliens est extrêmement faible. C'est naturellement une situation curieuse, une expérience à peu près unique qui prête à des commentaires, selon les cas, indignés ou ironiques. Les juifs des États-Unis sont profondément pro-israéliens, mais en même temps, ils sont profondément américains. Et je veux dire que les juifs américains sont probablement, de tous les juifs que je connais, ceux qui ont le plus de facilité à vivre leur judéité. Parce que la plupart des citoyens américains ont en même temps conservé quelques liens avec une communauté d'origine. De telle sorte que l'accusation de double nationalité ou de double allégeance que l'on élève souvent à l'égard des juifs français pro-israéliens ne porte pas de la même façon aux États-Unis.
Vous souffrez de cette situation ?
Non. Il y a des circonstances où j'en souffre jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, au moment de la conférence de presse du général de Gaulle au mois de novembre 1967, le peuple dominateur, l'expression m'a profondément blessé.
Raymond,
elle m'a profondément blessé, vous savez pourquoi ? Parce que le mot dominateur est le mot qui est employé par les antisémites depuis toujours. Bien entendu, je n'accuse pas le général de Gaulle d'être antisémite, ce serait absurde. Je lui ai reproché d'employer les mots qu'employaient les antisémites et de donner une espèce d'autorisation à une certaine sorte de discours. C'était sûr de soi et dominateur, pouvait être considéré comme un éloge dans la bouche du général de Gaulle, mais pouvait aussi être considéré par d'autres comme une autorisation.
Raymond Aron, la tension monte à Suez. Est-ce que vous pensez que c'est noir, au bout du compte ? Est-ce que vous croyez à une nouvelle guerre ?
Dans le Moyen-Orient ? Pour l'instant, je ne vois pas comment une nouvelle guerre, au sens conventionnel du terme, pourrait recommencer. D'abord, la guerre n'a pas cessé. La guerre continue. Mais pour avoir de grandes opérations militaires, il faudrait ou bien que les troupes israéliennes puissent franchir le canal de Suez. Je crois qu'elles ne le peuvent pas et qu'en tout cas les dirigeants ne le veulent pas. Ou bien il faudrait que l'armée égyptienne eût une telle capacité offensive qu'elle pût, elle, traverser le canal de Suez pour livrer une grande bataille. Donc si l'on exclut l'hypothèse où les puissances extérieures à la région fournirait aux belligérants des armes à longue portée, la petite guerre peut continuer pendant des mois, peut-être même des années, mais je ne crois pas à la répétition d'opérations comme celle de 1967. Mais en fait, il n'y a pas de paix. Je pense que c'est l'exemple typique de ce que Mao Tse-Tung appelle le conflit prolongé.
Raymond Aron, vous avez une extraordinaire réussite universitaire. Je cite à toute vitesse, normale supérieure, agrégation de philosophie, chaire en Sorbonne, Collège de France.
Non, pas Collège de France.
Ah, j'avais cru.
Non.
Sciences politiques, Harvard, Columbia. des bonnets de docteur honoris causa.
Oui, mais ça, on en a toujours un certain nombre quand l'âge vient.
Rien n'est prévu ou tout est parfaitement normal?
Ce qui a été imprévu, c'est l'interruption de la carrière universitaire entre 1940 et 1955. Alors, il y a eu l'interruption de la guerre, 40-45. Le fait que je n'ai pas voulu prendre une chaire en province, alors qu'avant la guerre, je l'avais accepté, j'étais allé m'établir à Toulouse, car j'avais été nommé à l'université, à la faculté de Toulouse en 39. Mais au retour de la guerre, pour des raisons diverses, parce que j'avais été en contact avec la politique, parce que j'avais été loin de France pendant des années, je n'ai pas voulu reprendre la carrière universitaire continue. Ce qui fait que je suis arrivé à la Sorbonne probablement une demi-douzaine d'années plus tard, que si j'avais continué à être un aussi bon professeur que j'avais été un bon élève. Mais j'ai été un moins bon professeur que bon élève.
Vraiment, si on peut dire. Raymond Aron, vous considérez comme un philosophe de la société industrielle?
C'est difficile à dire, mais je pense que, fondamentalement, l'ensemble de mon œuvre, depuis ce que j'ai écrit avant la guerre, c'est-à-dire l'introduction à la philosophie de l'histoire, jusqu'à ce dernier livre qui a paru il y a 8 jours, et qui s'appelle « Les désillusions du progrès », c'est un dialogue avec le marxisme, d'un bout à l'autre de mon existence, sur, à la fois, les conditions de la philosophie de l'histoire, problème formel, abstrait, et les conditions de la connaissance historique, sur le problème de ce qu'est la société moderne, à la fois sous sa forme socialiste et la forme capitaliste, et quelles sont les conditions de l'action politique et de l'action historique. Si je pourrais dire que l'ensemble de mes livres remplissent les différents chapitres que Marx avait indiqués dans le plan du Capital, écrit en 1857-58, plan du capital qu'il n'a pas suivi jusqu'au bout. Car le capital tel que nous le connaissons ne représente qu'un petit fragment du capital qu'il voulait écrire. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas simplement analyser l'économie, mais il voulait à partir de l'économie analyser l'ordre social, à partir de l'ordre social analyser l'État, à partir de l'État analyser les relations internationales. Bien entendu, je n'ai rien fait de comparable à l'œuvre de Marx, mais je veux dire que mon œuvre qui a l'air dispersée a une unité. L'unité, c'est le projet scientifique de comprendre la société moderne et de comprendre comment on la comprend.
Non, justement, dans votre œuvre, il n'y a pas de dispersion, il y a au contraire une continuité. Mais lorsque vous dites les marxismes imaginaires...
Oh, ça c'est un exercice polémique auquel je ne tiens pas spécialement. C'est un petit livre que j'ai publié il y a quelques mois et qui comporte essentiellement une introduction biographique, une étude sur la critique de la raison dialectique, qui est le résumé d'un cours d'une année que j'ai donné sur la critique de la raison dialectique en Sorbonne. Le cours existe, peut-être je vais le rédiger pendant ces vacances. Et puis il y a une longue étude sur la dernière péripétie, ou plutôt devrait-on dire au sens exact du terme, le dernier avatar du marxisme, le marxisme d'Althusser. Et ensuite, il y a la conférence que j'avais prononcée à l'UNESCO, qui était une espèce d'éloge non académique de Marx, puisque je partais de l'idée que faire un éloge académique de l'homme le moins académique qui ait vécu aurait été peu convenable. Je dois dire d'ailleurs que l'éloge non académique a beaucoup choqué un certain nombre des personnages officiels qui se trouvaient autour de moi.
Althusser ou Jean-Paul Sartre?
Non, non, ni l'un ni l'autre, c'est les officiels de l'UNESCO.
Non, 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 mais lorsque vous parlez de marxisme imaginaire...
Les deux. Le marxisme de la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire la dialectique proprement sartrienne de la série et du groupe, n'a rien à voir avec le marxisme. Mais rien. Sartre déclare que par ailleurs il est marxiste, ce qui est possible, mais ce qui est de lui dans la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire la notion de la raison dialectique... Le fait qu'on est aliéné dans la série et puis que le groupe est le début de l'humanité et la révolte, tout ça c'est du sartrisme, ça n'est absolument pas du marxisme. En ce qui concerne Althusser, il connaît probablement mieux le Capital que Sartre et il dit un certain nombre de choses intéressantes sur la lecture du Capital, mais il essaye manifestement de recréer un marxisme structuraliste où il a essayé. Et aujourd'hui, il est en train de rentrer dans le giron de l'Église, car il est en bonne voie pour devenir le penseur officiel de l'humanité. Il a déjà eu droit à une page entière de l'Humanité où il a expliqué que les ouvriers comprenaient plus facilement le capital que les économistes. Ce qui est du Jdanov. Partir du marché, c'est idiot, mais enfin, en tout état de cause, c'est typique d'une certaine forme de stalinisme. Et je suis triste pour Althusser, que j'aime beaucoup personnellement, qui est un homme très charmant, qu'il en revienne là, qu'il retombe là. On se demande pourquoi.
Justement, Raymond Aron, aujourd'hui, le marxisme est élevé au niveau d'une science.
Non.
Non.
D'une religion.
D'une religion, et certains hommes qui sont simples se réclament de cette religion et disent couramment « je suis marxiste ».
Oui. Vous savez à quoi on répond toujours la formule de Marx. Moi, je ne suis pas marxiste. La vérité, c'est que si l'on prend les marxismes au pouvoir, vous avez différentes versions. Car les différents régimes qui se recommandent du marxisme, Cuba, la Chine, l'Union soviétique, ces régimes sont sensiblement différents. Dans les trois cas, le marxisme est, dans ces régimes, typiquement ce que Marx appelait une idéologie. C'est-à-dire, c'est la justification et le camouflage de la réalité. Alors, le marxisme scientifique est un moment essentiel de l'histoire des sciences sociales, mais nous avons tous, marxistes ou non-marxistes, absorbé l'héritage de Marx. Et ce qu'il en reste dans la doctrine officielle de Jdanov, de Castro ou de Mao Tse-tung, ce sont des idéologies politiques, respectables en tant que telles, mais qui n'ont pas grand-chose de commun avec la science. Mais l'essentiel de ces idéologies, c'est d'être idéologie et de se donner pour science.
Raymond Aron, lorsque vous écrivez ce livre, Les marxismes imaginaires, dans le fond, vous faites une analyse tout à fait impitoyable de la crise de la pensée.
Non. Non, je fais une critique, qu'il vous plaît d'appeler impitoyable,
dure,
de ce que j'appelle les exercices intellectuels des agrégés de philosophie, qui, étant révolutionnaires pour des raisons qui sont probablement légitimes, veulent absolument avoir une foi intellectuelle pour justifier leur foi affective. Ils veulent avoir un dogme, ils veulent présenter une adhésion qui est probablement émotionnelle comme un acte de raison, et ils ne veulent accepter ni le marxisme simplifié qui est enseigné en Union soviétique, ni renoncer au marxisme. Alors ils inventent Sartre, un marxisme sartrisé. Quant à Althusser, il essaye d'utiliser un certain nombre de concepts de Bachelard, la coupure épistémologique, ou des concepts théoriquement empruntés à Lévi-Strauss, comme la notion de structure, pour repenser le capital. Je dois dire que certains m'ont écrit, en me remerciant pour les marxismes imaginaires qui s'appellent d'une sainte famille à l'autre, en me disant... nous savons maintenant que nous n'avons pas besoin de lire Althusser. Je n'ose pas dire ceux qui m'ont écrit cela, mais il y en a plusieurs d'un niveau très élevé.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Raymond Aron, vous avez écrit chez Calman Levy un livre qui vient de sortir, qui vient d'être publié, Les désillusions du progrès. C'est déjà toute une histoire, le titre.
Oui, vous savez que j'ai choisi ce titre en songeant au titre d'un livre bien connu de Georges Sorel qui s'appelle Les illusions du progrès. J'ai d'abord écrit le livre qui m'avait été commandé par l'Encyclopédie britannique. L'Encyclopédie britannique préparait pour le deuxième centenaire de cette encyclopédie un supplément. Un supplément qui serait composé d'une quinzaine d'articles qu'ils appelaient « roof articles », des articles plafonds en quelque sorte, qui auraient les dimensions d'un livre, 100 000 mots, 400 pages à peu près. Et ils m'ont demandé d'écrire un article qui s'appellerait « L'ordre social ». J'ai commencé par refuser, comme je fais d'abord, et puis j'ai dit « je vais vous donner un plan », et j'ai envoyé un plan, et malheureusement pour moi, le président du comité de rédaction d'Encyclopédie britannique a aimé ce plan, et finalement je me suis laissé faire. J'ai écrit ce livre en 64-65, il est apparu en anglais, il est apparu dans un ou deux autres pays, je le gardais dans mes papiers parce que j'avais des doutes sur le livre. Et puis les événements de ces dernières années m'ont amené à le publier parce que le titre lui-même, Les désillusions du progrès, et la thématique du livre trouvaient au bout de 4 années une certaine actualité. J'essaye d'expliquer dans ce livre pourquoi la société moderne est insatisfaite en permanence. La raison fondamentale étant que la société moderne a des projets qui sont en tant que tels contradictoires et irréalisables. Par exemple, la société moderne a un projet démocratique égalitaire. Mais d'un autre côté, elle a aussi un projet productiviste. Or, le productivisme implique organisation, discipline, hiérarchie, ce qui est contradictoire avec l'aspiration égalitaire qui fonde en même temps la société moderne. Autre exemple, du moment que vous voulez un ordre démocratique, il faut la compétition. Car si vous faites partir tous les jeunes dans la compétition, vous ne pouvez pas leur donner à tous le bâton de maréchal. Vous pouvez leur dire qu'à tous qu'ils l'ont dans leur giberne. Mais à l'arrivée, il n'y en aura qu'un petit nombre qui l'auront. Or, un des aspects typiques des révoltes d'étudiants, ce sont les révoltes contre les examens. Or, je veux bien dire que les examens sont mal organisés, qu'ils sont excessifs, etc., etc. Mais finalement, le refus des examens, c'est le refus de la compétition qui est liée à la démocratie elle-même. Et aucune des sociétés modernes n'évite la compétition. Comme vous le savez, une des sociétés les plus féroces à cet égard, c'est la société soviétique, où le nombre des étudiants dans les universités est strictement limité, et où ceux qui sont étudiants se considèrent comme des privilégiés.
En mai 68, vous avez pris des options.
Pris des options. Oui, je n'aimais pas dans l'ensemble ce que j'appelle la fête révolutionnaire. Je n'ai rien écrit de très vif contre les étudiants, parce que j'ai toujours bien aimé les étudiants. Pour l'instant, un certain nombre de ceux-ci ne me le rendent pas, mais enfin ça fait partie des risques du métier. À l'époque où j'enseignais à la Sorbonne, je crois que la majorité d'entre eux avaient plutôt de bons sentiments pour moi, même quand ils n'étaient pas d'accord avec mes opinions. Ce que je n'ai pas aimé, c'est l'attitude des adultes. Je n'ai pas aimé l'admiration qu'un grand nombre d'adultes ont manifestée pour les exploits de la jeunesse. Je trouvais parfaitement légitime que ces jeunes aient le sentiment de transformer le monde alors qu'ils se bornaient à une espèce d'immense fête de fraternité lyrique, telle qu'on en a connue en 1848 et en d'autres circonstances. Mais bien évidemment, il fallait ensuite rentrer dans la réalité. Et quand on est rentré dans la réalité, on a constaté que le coût pour la nation française, finalement probablement pour les travailleurs, pour la monnaie, pour le prestige de la France dans le monde, tout cela, le coût était considérable. Et je dirais que, dans une large mesure, ma réaction aux événements du mois de mai-juin a été partiellement une réaction de patriote français. Je trouvais que c'était un peu humiliant pour la France de voir la société se décomposer comme elle s'est décomposée au mois de mai.
C'est-à-dire, Raymond Aron, que vous pardonnez plus facilement à Cohn-Bendit qu'au professeur qui disait « bravo Cohn-Bendit ».
Je pardonne le plus difficilement au professeur qui, ayant pendant des années refusé toutes les réformes, alors que pendant 10 ans je ne cessais de dire qu'il fallait réformer, se sont découvert tout d'un coup une vocation révolutionnaire, quand la vocation révolutionnaire était la meilleure façon d'éviter les difficultés avec les étudiants. Alors là, vous pourrez dire que j'ai le goût des difficultés.
Car il m'aurait eu, d'ailleurs.
Il m'aurait été facile de dire, ça fait 10 ans que je vous l'annonce. Et la dernière fois que j'ai parlé à l'Assemblée de la Sorbonne, au mois de décembre, puisque j'ai quitté la Sorbonne au mois de janvier, j'ai parlé pour la première fois au moins 3/4 d'heure, en leur disant que la situation actuelle était impossible et qu'on allait vers des troubles évidents si l'on se refusait à prendre l'une ou l'autre des mesures concevables. Alors quelqu'un m'a dit que j'étais futuriste, que j'anticipais sur l'avenir. L'avenir, c'était 6 mois plus tard, même pas, 4 mois plus tard.
Raymond Aron, puisque vous êtes futuriste, c'est une université dont on dit toujours, et c'est la phrase fixe, facile, l'université est malade. Comment la voyez-vous dans les mois qui viennent ?
Oh, les mois qui viennent, c'est pas une question intéressante, parce que probablement il ne se passera rien dans les mois qui viennent. Les examens se déroulent dans le calme, de la tranquillité. Dans un grand nombre de circonstances, les examens sont suffisamment transformés pour que 90% des candidats soient reçus, ce dont je les félicite, et je me félicite en un certain sens. Mais d'abord, ça varie beaucoup selon les facultés, cela varie beaucoup selon les universités. Pour l'instant, à la Sorbonne, telle que je la connais, l'âme n'y est plus. Mais la question n'est pas de savoir ce qui se passera dans les mois qui viennent, la question est de savoir ce qui se passera dans les années qui viennent, c'est-à-dire si l'on peut reconstruire en France une université moderne. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas de la faute de M. Edgar Faure si cela n'est pas fait, cela ne pouvait pas être fait en quelques mois. Personnellement, je pensais en mai dernier, je le disais, que si tout allait bien, il faudrait 5 ans, et plus probablement, il en faudrait 10. Mais il est possible aussi que la crise actuelle soit plus profonde encore qu'on ne le croit. Ce ne serait pas la première fois qu'une certaine sorte d'université française disparaît. Après tout, les universités traditionnelles ont disparu à la fin du XVIIIe siècle. Il est possible que les facultés des lettres doivent disparaître sous leur forme actuelle.
Raymond Aron, vous n'étiez pas là, vous ne le saviez pas, mais vous avez été pendant 48 heures ministrable.
Absolument pas.
On a beaucoup parlé de vous pour un poste ministériel.
Tout à fait ridicule.
C'était vrai, pourtant.
C'était tout
à
fait...
Le bruit en a couru.
Le bruit en a couru, mais je suis convaincu qu'aucun des responsables, ni M. Pompidou, ni M. Chaban-Delmas, n'y a songé le moins du monde. Et l'idée que je pourrais devenir ministre de l'Information, comme un journal du matin l'a écrit, est une idée démente. D'abord, je ne suis pas un homme politique. Si j'avais voulu devenir un homme politique, cela se saurait, comme on dit. Et c'est un peu tard pour commencer. En plus de ça, je ne suis pas candidat à un portefeuille ministériel, et moins que tout autre, le portefeuille de l'Information me tenterait. Est-ce que vous me voyez réellement expliquer, justifier les décisions d'un ministère quelconque, même si ce ministère était présidé par mon frère, ou si je puis dire, même s'il était présidé par moi-même? C'est pas concevable. Enfin, s'il y a un homme qui n'est pas doué pour être ministre de l'Information, c'est bien moi.
Mais si
personne n'a pu y songer.
Mais Raymond Aron, si on vous offrait, ou si on vous avait offert le ministère de l'Éducation nationale...
Oh, je l'aurais certainement refusé. Je peux même vous dire pourquoi.
Pourquoi ?
J'aurais dit en d'autres circonstances, il y a quelques années, la tâche m'aurait paru accablante et exaltante. Aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter parce que, à tort ou à raison, à tort je crois, un grand nombre d'étudiants ont symbolisé en moi leur ennemi. Un grand nombre d'étudiants s'imaginent que je suis une espèce de vieux mandarin qui ne veut que défendre ses privilèges, je ne sais pas lesquels, qui ne veut que maintenir une université que je n'ai cessé de critiquer depuis 15 ans, mais je suis devenu l'ennemi symbolique d'un grand nombre d'étudiants pour lesquels je n'ai que de bons sentiments. Mais le fait est que je suis devenu symboliquement leur ennemi. Par conséquent, il aurait été parfaitement absurde de me confier une fonction officielle quelconque.
Raymond Aron, j'ai retrouvé les épithètes qu'on collait à votre peau à un certain moment. C'était alibi des bien-pensants, servant Schreiber du riche, ce qu'il faut faire croire, ce qui peut laisser croire qu'il y a un servant Schreiber du pauvre, Mauriac de la finance.
Qu'est-ce que je puis répondre à ce genre d'insanité? Venez, je peux vous raconter une petite histoire. J'ai écrit il y a quelques années, c'était en 1957, au moment où tous les bien-pensants, gauche inclus, défendait encore la souveraineté française en Algérie. J'ai écrit un livre qui s'appelait « La tragédie algérienne » où je reconnaissais le droit de l'Algérie à l'indépendance et où je recommandais de traiter sur la base du droit à l'indépendance. Sur quoi le journal de gauche m'a traité de défaitiste capitaliste et un certain défenseur de l'Algérie française que je ne veux pas citer a écrit un petit livre pour me répondre, dans lequel il a expliqué que je défendais les thèses du comité des forges ou du syndicat des industriels de l'acier. Sur quoi le président de ce syndicat a écrit à l'auteur de ce petit livre « Peut-être vous avez raison, mais je n'ai jamais rencontré de ma vie M. Raymond Aron. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir été anti-stalinien 10 ans avant M. Khrouchtchev, ou 10 ans avant que Jean-Paul Sartre reconnaisse que le stalinisme était une horreur. Bien, eh bien, je garde un souvenir de fierté d'avoir, entre 1945 et 1955, dénoncé le stalinisme, certainement avec beaucoup plus de modération que M. Khrouchtchev, mais aussi avec beaucoup plus de lucidité que certains des grands penseurs de gauche, style mon vieux camarade Jean-Paul Sartre. Je suis parti dans la vie sans un centime, et je ne vois pas pourquoi je représenterais le servant Schreiber, du riche, ça ne signifie rien du tout. Je défends les idées que je crois justes. Je pense que nous n'avons pas le choix entre un nombre illimité de régimes. Je crois que tout compte fait, le type de régime dans lequel nous vivons est préférable au régime qui règne à l'est de l'Europe. Ce régime, je préférerais l'améliorer. Je reconnais que la capacité française de réforme est faible. C'est pourquoi il y a de temps en temps des fêtes révolutionnaires. Mais les mots que vous avez cités, vous savez, ils ne me touchent pas. Je suis souvent touché par des critiques, mais pas par celle-là.
On a dit, Raymond Aron a souvent raison, mais il est toujours sûr d'avoir raison.
C'était pas on qui l'a dit, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit en citant le mot d'un de mes professeurs, mot qui m'avait été rapporté par la secrétaire commune à lui et à moi. Et j'ai rappelé ce mot dans la petite allocution que j'ai prononcée pour remercier ceux qui m'avaient offert l'épée d'académicien, vous savez, ce trophée un peu ridicule que l'on reçoit quand on entre dans une académie.
Pourquoi ridicule ?
Parce que ces sortes de rites traditionnels supposent, pour ne pas être ridicule, un contexte qui est en train de disparaître. Je suis très frappé par la crise simultanée de l'autorité paternelle, de l'autorité de l'Église et de l'autorité de l'université. C'est pour moi la mise en question de toutes les autorités traditionnelles, ce qui me paraît très intéressant. Peut-être que c'est le point extrême du processus de sécularisation.
Raymond Aron, lorsqu'on dit que vous êtes un homme de gauche, vous trouvez cela insupportable ?
Non, non.
Non.
Ça m'est complètement égal.
Sans parti ?
Voyons. Dans la plus grande partie de mon existence, je n'ai adhéré à aucun parti. J'ai été pendant...
RPF.
Quelques mois dans ma jeunesse membre du Parti Socialiste et j'ai essayé de fréquenter la section locale. Puis quand j'entendais d'agréables jeunes gens dire « nous sommes un parti révolutionnaire », cela m'a énervé. Je suis parti non pas parce qu'ils voulaient être révolutionnaires, mais parce qu'il était si manifeste qu'ils ne l'étaient pas. Et leur manière de parler, et pour dire le contraire de la réalité, m'a été irritant. Et puis j'ai été pendant un certain temps membre du RPF, pour des raisons complexes sur lesquelles ceux qui s'amusent à faire ma psychologie discutent toujours. Est-ce que c'est l'amitié pour André Malraux qui m'a entraîné dans le RPF ? Est-ce que c'est le fait que je ne suis gaulliste que quand le général de Gaulle n'est pas au pouvoir ? Est-ce que c'était la nostalgie de l'action politique qui s'exprimait pour une fois et qui n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout ? Enfin, je vous laisse le choix entre ces diverses interprétations. Changer un peu de tout cela.
Changer d'idée, est-ce évoluer ?
On pourrait retourner la proposition. Changer d'idée, je n'ai pas, je crois, changé de système de valeurs. Cela dit, la société dans laquelle nous vivons est extrêmement différente de la société que j'ai connue dans les années 30. Et sur un certain nombre de points, j'avais des idées fausses sur la société des années 30. Ou tout au moins, la société des années 50 était autre et des idées qui étaient vraies pour la société de 30 ne l'étaient plus pour la société de 50. Si je n'avais pas changé d'idée sur aucun sujet en 40 ans de réflexion, je serais un pauvre être. Cela dit, je crois que j'ai moins évolué que ceux qui ont été à une certaine époque communistes et qui ont cessé de l'être. Parce que mon adhésion politique n'a jamais eu le caractère d'un acte de foi ni d'un acte religieux. J'ai un système des valeurs, j'ai une certaine représentation du monde historique, j'ai des préférences politiques. Quant à savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant, tout dépend de la situation particulière et l'attitude que j'adopte, le choix que je fais, ne met pas en question l'ensemble de mon être. Être communiste, c'est s'engager tout entier dans une certaine action. Mais dire qu'il vaut mieux voter pour M. Pompidou que pour M. Poher, ce qui était mon opinion il y a quelques semaines, c'était un jugement bon ou mauvais, raisonnable ou déraisonnable, mais qui n'engage pas une métaphysique.
Raymond Aron, très sincèrement, vous n'avez aucune ambition politique ?
Vous savez, quand on a décidé pour jouer le jeu, d'être tout à fait sincère, et si quelqu'un vous demande est-ce que vous n'avez aucune ambition politique, on est tenté de fouiller le petit coin de son âme où il subsiste probablement le regret de ne pas avoir fait une chose qu'à une certaine époque de sa vie on a souhaité. Et il est parfaitement vrai qu'il y a eu un ou deux moments où j'ai eu le désir de l'action politique, mais fort heureusement, ma femme, ma compagne, est une personne intelligente et beaucoup plus raisonnable que moi, et elle m'a toujours dit que j'étais fait pour beaucoup de choses, mais pas pour être un homme politique.
Vous pensez que la politique est une maladresse ?
Non ! Non, je respecte profondément l'homme politique, mais il y a un certain nombre d'exigences de la vie politique, par exemple savoir s'ennuyer, supporter les imbéciles, ne pas être impatient, écouter au lieu de parler. Je suis en train de vous donner la démonstration que je ne suis pas très doué pour ce genre d'exercice.
Raymond Aron, quand les honneurs viennent à vous, vous savez ne pas les refuser.
Quand les honneurs viennent, ce qu'on appelle honneur, je les prends en charge. Enfin, Ça ne me paraît pas accablant, ça me paraît indifférent. Ça ne touche pas à mes ambitions fondamentales non réalisées. Ça ne compense pas ce qui reste de regrets dans une existence normale.
Raymond Aron...
Ou réussi, ou pas réussi, comme on voudra.
Vous piquez des flèches, mais vous n'aimez pas que l'on conjugue le verbe contester.
C'est pas du tout ça. J'ai passé ma vie à critiquer et à contester. Mais ce que l'on a appelé contestation au mois de mai ou au mois de juin, et ce que l'on appelle aujourd'hui très souvent contestation, me paraît le contraire de la contestation telle que je la conçois. Parce que la contestation doit se fonder sur un minimum d'argumentation rationnelle et sur un minimum de conscience des objectifs. La contestation purement négative, je la comprends, c'est un état d'esprit, c'est une expérience, mais je ne crois pas que cela signifie grand-chose de contester l'enseignement universitaire sans se représenter un autre enseignement. Je ne crois pas que cela signifie grand-chose de contester l'ensemble de l'ordre occidental en disant en même temps qu'on ne veut pas de l'ordre soviétique et en rêvant de l'autogestion ou de la vie simple des communautés primitives.
Raymond Aron, en lisant vos livres, on s'aperçoit que vous avez été déçu par beaucoup de choses. Est-ce que vous avez quand même quelques raisons de vous réjouir ?
Déçu par beaucoup de choses, j'ai envie de vous répondre que dans la philosophie telle que je l'ai exposée dans ma jeunesse, rien ne nous a été promis, rien ne nous a été garanti. Et j'ajouterais que celui qui a vécu les années 30, avec la montée du nazisme, celui qui a vécu intensément la guerre et ses horreurs et le génocide, celui-là ne peut pas être bouleversé par la contestation des étudiants. Il s'étonne simplement que la génération suivante s'indigne avec une telle passion de mots réels, mais qui, comparés aux mots que nous avons connus, sont malgré tout véniels, mais cela prouve simplement que l'expérience historique des hommes de 20 ans est différente de la mienne, ce qui est fort heureux.
Raymond Aron, vous avez un passé, un beau passé, mais cela ne vous suffit pas, vous êtes insatiable. Et on dit, qu'est-ce qui fait courir, Raymond Aron ?
C'est Vianson-Ponté qui dit ça. Eh bien, ce qui me fait courir, c'est que je n'ai jamais su choisir entre mes différentes carrières, ni choisir entre mes différentes ambitions. Mon ambition véritable était philosophique et scientifique, et elle n'est que à moitié satisfaite. Et d'autre part, la vie sans avenir, la vie sans ambition, la vie sans recherche serait intolérable. Je suis un actif, comme vous le savez. On dit que je suis un pessimiste. À supposer que je sois un pessimiste, je suis un pessimiste actif. Mais je ne crois pas que je suis un pessimiste. Simplement, je ne crois pas au paradis sur Terre.
Et c'est cela, la richesse ?
Je ne sais pas.
Merci, Raymond Aron.